French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
T'as le statut, je suis en stage et je suis payée un peu moins que mon loyer, quoi. Et un soir, on s'est appelé, on s'est dit, bon, je crois qu'il faut qu'on se marie. Comment les gens construisaient le van? Est-ce que c'était quelque chose qui était très cher ou pas? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu... En 4 ans, tu te poses beaucoup de questions. Après, je pense qu'on est très forts psychologiquement tous les deux. Et puis, je pense qu'on était très amoureux.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux États-Unis. Et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon invité du jour vous amène en balade entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Après avoir rencontré son chéri à la piscine, ça ne s'invente pas, alors en pleine rage de dents au fin fond de la Louisiane, Fanny nous raconte comment l'amour la fit voyager et vivre successivement en Louisiane, à New York, au Costa Rica, à Barcelone et désormais au pays du Bourbon dans le Kentucky. Cette fan inconditionnelle de comédie musicale nous raconte aujourd'hui son histoire d'amour, pleine de rebondissements, honnêtement, accrochez-vous. Après avoir vécu à distance avec son amoureux pendant plus de 4 ans, c'est un soir sur FaceTime que les tourtereaux décident de se marier quelques mois plus tard au bord de l'océan Pacifique au Mexique. Pensant alors résoudre quelques soucis liés à l'immigration, Bobby et Fanny étaient en fait loin de s'imaginer que ce n'était encore que le début. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une histoire d'amour composée d'une bonne dizaine d'épisodes. Pleine de rebondissements, je vous le disais, et dans laquelle deux amoureux ont décidé que l'immigration ne serait pas un obstacle à leur bonheur. Un super chouette épisode honnêtement qui vous motivera et vous impressionnera, je le pense, autant que moi. Fanny est tout simplement scotchante de par sa philosophie de vie et sa bonne humeur. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter à cette amoureuse optimiste hors du commun qu'est Fanny. Bonsoir Fanny et bienvenue sur le podcast.
Salut Anne-Fleur, merci à toi de m'avoir invitée.
Alors, d'où est-ce que tu nous parles ce soir?
Alors, je vous parle de Louisville, dans le Kentucky. C'est pas très connu, c'est un peu au milieu des États-Unis, plutôt du côté est. On est la dernière ville, en fait, à avoir le Eastern Time, justement. Mais on est un peu considéré comme le sud des États-Unis.
Et le Kentucky, c'est pas un peu l'état du whisky aussi?
Alors, du bourbon, attention!
Pardon, je connais rien, pardon, papa, si tu m'entendais.
Non, écoute, c'est pas moi qui vais taper sur les doigts, mais c'est vrai qu'ils sont assez chauvins. Le Kentucky a deux choses très importantes, les chevaux et le bourbon. Donc, c'est un état où les courses hippiques ont vraiment une grosse partie à jouer. Et en effet, le bourbon est typique d'ici aussi. Donc, il y a pas mal de choses à faire dans la région sur ces deux choses-là. Donc, si t'aimes pas le bourbon, c'est quand même compliqué de...
De point de vue culturel, de t'intégrer, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Bon, super. Ouais, écoute, tu nous raconteras ça en détail à la fin quand on va demander un peu des astuces et des coins à découvrir par là où tu es. Alors, Fanny, on va reprendre un petit peu depuis le début. D'où est-ce que tu viens en France?
Alors, à la base, je suis originaire de Picardie. Je suis née à Creil. the place to be.
Carrément.
Ouais, j'ai grandi par contre entre la Seine-et-Marne et la Picardie. J'étais au collège, au lycée en Picardie, mais bon, j'habitais à Autis, une petite ville, voilà, en Seine-et-Marne, qui fait pas trop rêver non plus. Et puis après, quand j'ai eu mes 18 ans, avec mes parents, on est partis à Paris, puisque moi j'ai fait une prépa là-bas. Et puis mes parents sont restés à Paris, donc maintenant c'est plutôt Paris ma maison. Mes parents habitent dans le 17e, mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à y aller quand je rentre en France.
D'accord, ok. Et alors, comment est-ce que on est passé de Fanny s'installe à Paris à 18 ans à Fanny est aujourd'hui en direct de Louisville, d'ailleurs. Grande découverte pour moi, je savais pas que ça se disait comme ça, j'aurais dit Louisville. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment est-ce que t'es partie à l'étranger? Est-ce que tu es partie à l'étranger avant d'arriver aux États-Unis? Est-ce que tu peux reprendre un petit peu depuis le début pour nous?
Ouais, tout à fait. Alors, on va dire que depuis que je suis toute petite, j'étais très intéressée par l'anglais. D'une manière générale, c'était une langue vraiment qui me passionnait. J'étais passionnée de chant aussi quand j'étais
bonne élève.
Ouais, donc j'adore, tu vois, vraiment l'anglais, c'était un truc voilà qui me passionnait, et du coup je me suis dit bon bah il faut d'une façon ou d'une autre dans mes études que j'intègre l'anglais. Et en même temps, j'étais une très bonne élève, donc mes parents me disaient il faut absolument que tu fasses un truc hyper général, tout ça. Donc en fait, j'ai fait une prépa à Paris et ensuite je suis partie en école de commerce. Et je me suis dit voilà, ce sera le meilleur moyen de voyager le plus possible. Et donc juste avant d'entrer dans l'école de commerce, je suis partie faire un stage à Londres pendant 2 mois. Donc un petit stage qui m'a bien confirmé que j'avais envie de probablement vivre un peu dans un pays anglophone. Et suite à ça, du coup, j'ai fait mes 2 ans en école de commerce jusqu'à ce que je parte en échange universitaire. Et c'est là que je suis partie pour la première fois aux États-Unis, donc en Louisiane à l'époque. Je suis partie.
Je rêve de Louisiane.
Oh, c'est magnifique. Vraiment, je te conseille d'y aller si tu peux, même pour un week-end. C'est fantastique. C'est super.
T'étais où en Louisiane alors?
Alors, j'étais à Thibodaux. C'est une toute petite ville. Il doit y avoir 7000 habitants et après, il y a 7000 étudiants. Donc, pour les États-Unis, 14000, c'est vraiment rien.
Ouais, c'est un village américain.
Ouais, c'est vraiment ça. Et puis du coup, tout le monde connaît tout le monde. C'est assez drôle. Donc c'est à 1 heure de la Nouvelle-Orléans. Donc hyper bien placé pour faire des trucs à New Orleans. C'était vraiment canon. Ce qui était assez dingue, c'était que quand j'ai voulu faire mon échange universitaire, en fait, dans mon école de commerce, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu as une liste d'écoles et puis en fonction de ton rang, avec tes notes et tout ça dans les années que tu as passées dans l'école, tu peux voilà choisir plus ou moins une destination. Mais en fait, quand tu rentres dans la salle pour choisir ta destination, tu es pas sûr du tout de ce qui reste.
Waouh.
Ouais.
C'est un peu comme les écoles de médecine, je crois.
Ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça fou en fait de se dire ouais mon avenir comme ça. Enfin, tu vois, j'étais en train de me dire ouais je vais partir à Bangkok ou je vais partir aux États-Unis quoi. Je savais pas du tout où j'allais aller. Et j'avais quand même cette envie d'aller aux États-Unis qui me trottait dans la tête depuis que j'étais adolescente. Donc quand je suis rentrée dans la salle, en fait, ils m'ont dit bah il y a plus qu'un spot, c'est Nicholls State University en Louisiane. Je fais bon bah j'y vais quoi.
Je prends.
Donc voilà, je suis partie en Louisiane.
Ouais. Puis c'était en quelle année là du coup?
Donc ça c'était en 2014, août 2014.
OK.
Petite histoire drôle de mon arrivée en Louisiane.
J'adore les histoires drôles, vas-y.
La veille au soir, je dormais chez un copain d'enfance parce qu'il habite juste à côté de Charles de Gaulle, donc pour partir en avion. Je me réveille dans la nuit, j'ai un mal de dents, mais improbable, vraiment un truc horrible. Alors, il était 4h du mat, je pense que mon avion était à 10h.
Cool.
Donc je réveille mon pote, ouais. Je dis mais je t'emmène pas aux urgences, très clairement on n'a pas le temps, tu te débrouilles quoi. Donc je suis partie dans l'avion avec mes 9h de vol jusqu'à Atlanta avec un mal de dents horrible. Et je suis arrivée, donc il y avait un groupe d'accueil, tu sais, quand tu arrives dans une université comme ça américaine, t'as un groupe d'accueil, généralement des gens qui parlent français. Donc la fille qui est venue me chercher, je lui ai dit direct, je crois qu'il faut que j'aille aux urgences, j'ai hyper mal aux dents. Elle m'a dit bon bah bienvenue, il y a pas de souci, je t'emmène. Et du coup elle m'a emmenée et puis bon bah j'ai dû me faire opérer tout ça. Autant de dire que j'avais pas l'assurance. Ouais, horrible, horrible. Et puis, vraiment, c'était la première fois que j'étais aussi loin de ma famille parce que Londres, c'était vraiment pas grand chose. Je pouvais rentrer assez facilement.
Je pouvais rentrer, quoi.
Ouais. Donc, la grosse panique, quoi. Bon, tu sais que les dents, ça coûte très cher aux États-Unis.
Ce que j'allais dire. C'est... Et puis, ils rigolent pas avec leurs dents. Ici, les dents, c'est clairement un signe extérieur de richesse aux États-Unis.
Donc c'est... Ah ouais, clairement. Donc, en fait, j'ai dépensé toutes mes économies pour mon semestre en fait, pour enlever une dent. Donc, autant te dire que j'ai pleuré, c'était vraiment mal, quoi. C'était terrible. Donc, mes 3-4 premiers jours d'échange universitaire, j'étais clouée dans mon nouvel appart avec des médicaments, je mangeais pas, enfin, c'était terrible.
Ah, puis personne pour te chouchouter, là, dans ces moments-là, ça doit pas être facile.
Ouais, exactement. Alors après, j'ai eu de la chance parce que mes colocs en Louisiane étaient topissimes et elles se sont vraiment bien occupées de moi. Mais bon, tu sais, c'est début du semestre, alors, tout le monde apprend à se connaître et puis tout le monde sort et moi, je pouvais pas sortir parce que j'étais sous antibiotiques un peu hard en plus. Tu sais, ils aiment bien me donner des trucs antibiotiques et puis j'avais des stéroïdes et tout, enfin... La dose, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je pouvais pas boire, puis je pouvais pas sortir. Donc, un jour, on est sorti à la piscine. Mes colocs m'ont dit, ouais, il faut qu'on te fasse faire quelque chose, quoi, que tu rencontres des gens. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain, qui est maintenant mon mari.
Ah, cette femme était bien inspirée, les colocs, quoi. Donc, tu l'as rencontré à la piscine, ça s'invente pas, ça?
Ouais, exactement. Et puis, la première chose qu'il m'a dit, du coup, il m'a fait la bise. Enfin, un Mexicain, c'est très étonnant, mais il m'a fait la bise parce qu'il connaissait un peu les Français. Et il m'a dit mais pourquoi t'as mal aux dents, tu te brosses pas les dents? Ça c'est vraiment une histoire, tu te dis c'est pas possible qu'on se soit marié.
Ouais, la technique d'approche, franchement, elle a été quand même exceptionnelle. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait qu'on fasse un top 10 des techniques d'approche pour la Saint-Valentin.
C'est bon pour drague.
Tu le rencontres à la piscine, mais alors là, tu me laisses un peu en suspens. Qu'est-ce qui se passe? Tu restes combien de temps en Louisiane? Raconte-moi un petit peu comment ça se passe.
Alors, la Louisiane, je suis restée 5-6 mois. C'est un semestre, tu sais, de août à décembre, quoi, en gros. Mm-hmm. Donc, on s'est mis ensemble très rapidement avec mon copain, hein, je pense, 5 jours après que je sois arrivée, grosso modo. Et puis moi,
on est loin de chez soi, tout se fait beaucoup plus vite quand même, hein. Enfin, on se met pas les barrières conventionnelles qu'on aurait à la maison, à ce qu'on appelait la maison.
Non, c'est tout à fait ça. Et puis, moi, je me suis dit, bon, écoute, c'est un semestre, on verra ce qui arrivera. Tu vois, c'est un peu le mec, il a des tatouages partout et tout. Je me suis dit, c'est le bad boy, ce sera mon expérience.
Tu vas dire maman quand je vais rentrer.
Ouais, exactement, quoi.
Il va dédouaner dans le 17e, le mari.
C'est clair. Alors que pas du tout, en fait. Il est très poche, finalement. Il est très tatoué, mais très poche. Donc voilà, donc le semestre s'est passé très très bien, évidemment. Tombée très amoureuse. Et puis j'ai bien profité de l'université américaine qui est quand même une expérience fantastique, parce que tout est grand, parce que tu sais un peu tout ce que tu as vu dans les films, quoi. Quand t'arrivais un peu des États-Unis quand t'étais ado, je pense que faire un semestre d'échange aux États-Unis, c'est vraiment hyper satisfaisant. T'es choqué par partout culturellement, et puis la grandeur, la clim en Louisiane, bon, tu rentres dans un building, il fait hyper froid, quoi. Et t'es dehors, tu peux pas mettre de maquillage parce que ça dégouline. Donc, c'est
l'humidité que vous avez par là-bas, ça doit être assez dingue, non, l'été?
Ouais, c'est assez violent. Alors après, par contre, c'est vrai que l'hiver était hyper sympa. Enfin, moi, je suis restée jusqu'à décembre, mais c'est vrai que c'était très, très cool.
Donc, venant de Picardie, ça doit être sympa, ouais.
Ça change, hein. Même de Paris, ça change, honnêtement.
Donc, bah oui, c'est clair. Et c'était ta première fois aux États-Unis?
Alors, je suis allée aux États-Unis une semaine avec mes parents à New York pour un voyage. Mon père travaillait là-bas pour une semaine et puis on l'a rejoint une semaine après.
D'accord.
Donc, c'était pas ma première fois, mais bon, New York, c'est tellement différent du reste des États-Unis que bon.
C'est clair, c'est un monde à part.
Ouais, donc c'était le vrai moment où j'ai découvert l'Amérique profonde, disons, parce qu'en plus la Louisiane, tu vois, il y a encore pas mal de problèmes de racisme, par exemple, enfin, toutes ces choses-là que tu te prends un peu en pleine face et tu réalises en fait que c'est vrai que, bon, aux États-Unis, tout n'est pas rose, tout n'est pas New York, c'est autre chose de voir, la Louisiane profonde, en plus, parce que c'est même pas New Orleans, tu vois, c'est un petit village, donc tu vois vraiment, et puis l'obésité aussi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée en Louisiane, je pense que c'est un des états les plus obèses des États-Unis.
Ah ouais?
Ouais, bah parce que tout est frit, toute la nourriture, il y a vraiment une grosse culture alimentaire de friture, quoi. C'est pas très sain, quoi. Et puis c'est un état pauvre, donc forcément un état un peu plus pauvre, t'as plus d'obésité en général.
Et justement, tu parles de la culture, du racisme, etc. Comment est-ce que t'as vécu, toi, en tant qu'étudiant international, ton intégration à l'université ou dans la ville, où tu dis que tout le monde connaît tout le monde?
Ouais, écoute, hyper bien parce qu'au final, l'université dans laquelle on allait est quand même un gros hub d'échange. Il y a plusieurs écoles françaises qui s'y rendent. Donc mon école était même pas la seule. On traînait beaucoup entre Français à l'époque. Donc, en général, les internationaux, les Mexicains, les Espagnols, les Français, on était beaucoup ensemble. Avec les Américains, tu travaillais en groupe pour tes classes, mais les interactions n'étaient pas obligatoires, si tu veux. Donc, très très bien. Je l'ai hyper bien vécu. J'ai adoré mes 6 mois en Louisiane. Enfin, je regrette pas du tout. Et puis même en termes historiques. Tu visites les plantations, tout ça, c'est hyper intéressant. C'est un des coins des États-Unis qui a vraiment une histoire. Ouais, donc, c'est vraiment excellent. Après, voilà, il y a quelques petits trucs qui te choquent, tu vois. Il y a par moments, voilà, tu regardes un truc et tu dis, ah ouais, là, c'est vrai que je m'en rendais pas compte et t'as l'impression que c'est des mythes un peu. Et puis finalement, bon, c'est pas le cas, quoi. Mais en tant que moi, mon expérience personnelle, excellente, aucun problème en tant qu'étrangère. En plus, les Américains adorent les Français.
D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce qu'il s'appelle ton ami de piscine?
Mon ami de piscine, il s'appelle Francisco, mais on va l'appeler Bobby parce que c'est comme ça que je l'appelle. Il s'appelle Francisco Roberto et comme Bob, c'est le surnom de Robert en anglais, il m'appelle Bobby.
Ça lui va so être... American. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Bobby là-bas? Il était étudiant aussi?
Ouais, tout à fait. Il était étudiant, lui, à l'époque, en bachelor. Et ensuite, moi, quand j'ai quitté la Louisiane, il est passé en MBA là-bas. Donc, lui, il a quand même... Ça fait 10 ans qu'il est aux États-Unis.
Donc, lui, il était parti pour rester là-bas.
Ouais. Il a quitté le Mexique à 18 ans. Il est parti sur une bourse de golf sur cette université. Et du coup, il a fait tout son bachelor là-bas. Ensuite, il a fait son MBA. Et suite à ça, il a trouvé un job en Louisiane. Et puis là... Bon, récemment, il a trouvé un job à Louisville.
À Louisville. Ouais. Très bien, très bien. Bon, alors, donc du coup, tu fais tes 5-6 mois d'études à... J'ai oublié le nom de la ville, excuse-moi.
Thibodeau, je t'en voudrais pas.
Thibodeau, merci beaucoup, en Louisiane. Qu'est-ce qui se passe après? Tu rentres en France?
Ouais, je rentre en France. Alors tu sais, en école de commerce, t'as plus ou moins 2 ans de cours. Après, t'as un échange, ensuite t'as un stage, ensuite tu retournes en cours. Sauf si tu prends une année sabbatique. Donc en fait, là, c'était la période où je vais faire mon stage. Donc là, j'ai trouvé un stage à Paris dans une boîte de luxe française, très sympa. Un stage en RP qui était vraiment très très cool. Et puis ça s'est bien passé. Donc, vers la fin du stage, comme Bobby et moi, on était toujours ensemble. Moi, je leur ai demandé s'il était possible de partir aux États-Unis à nouveau, soit s'ils avaient des contacts, soit dans la même entreprise. Ouais. Donc, comme c'est les RP, et puis c'est quand même une belle maison française, mes boss avaient pas mal de contacts, et donc m'ont mis en contact avec pas mal de personnes sur New York, plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis, finalement, j'ai passé un entretien avec le groupe marketing New York de cette même entreprise, et ça a hyper bien collé. Donc, je suis partie à New York l'été 2015, donc vraiment juste un an après le début de mon échange universitaire.
D'accord, donc vous aviez fait à peu près 6 mois à distance avec Bobby. Te voilà donc du coup arrivée à New York. Dans quel contexte du coup tu pars en VIE ou...
Alors je pars en stage, donc sur un J1. Le visa du coup stagiaire ou étudiant, donc c'était mon deuxième J1, j'avais déjà eu un J1 pour mon échange universitaire. Donc le J1 c'est 6 mois, 1 an ou 18 mois je crois, si je me souviens bien. Et c'est peut-être possible que ça aille jusqu'à 2 ans, mais je me souviens plus trop.
Je crois qu'effectivement c'est 18 mois maximum.
Ouais, un truc comme ça.
En tout cas à l'époque.
Et à l'époque, moi, il m'avait proposé 6 mois. Donc, bon, écoute, jusque-là, j'avais pris 6 mois en me disant, bon, de toute façon, je vais à New York pendant 6 mois, c'est génial. Je suis hyper excitée, même si au final, on n'était pas dans le même état du tout. Et puis, c'est toujours 3 heures d'avion. On s'est dit, en plus, on sera à peu près sur la même time zone. On sera définitivement sur le même continent. Donc, c'était déjà une grosse réussite pour nous. Mm-hmm. Donc, je suis partie faire mon stage là-bas. J'étais hyper heureuse de vivre à New York, mais j'ai l'impression que, bon, tu vois, il y a plusieurs expatriations. Il y a l'expatriation où t'as un statut d'expat, où t'as un statut de VIE et tu gagnes bien ta vie et c'est cool. Et puis, t'as le statut, je suis en stage et je suis payée un peu moins que mon loyer, quoi.
Ah ouais, c'est clair.
Ouais. Donc ça, c'était quand même dur.
Ah, surtout à New York, la vie est très très chère quand même.
Ouais, c'était horrible parce que j'avais pas de vie sociale du coup, parce que je pouvais pas, enfin tu vois, mes parents étaient obligés de m'aider, donc moi je fumais des cigarettes pendant tout mon échange depuis mes 17 ans, et quand je suis arrivée à New York, j'ai dit bon, sachant que mes parents me donnent de l'argent pour vivre. Ouais, voilà. En plus, c'est hyper cher à New York, je sais plus à combien.
Ouais, il y a une taxe spéciale en plus à New York, c'est vrai.
Ouais, il y a des taxes spéciales pour tout à New York, c'est. Et ouais. Donc, ça a été très dur. Je vivais à Harlem, côté latino, ce qui était un quartier quand même sympa, mais bon, mon appartement était pourrave. On avait des cafards et tout. Enfin, c'était terrible, quoi.
Ah ouais, dur.
Ouais, c'est vraiment... New York, ça peut vraiment avoir une facette hyper négative si tu le vis pas dans les bonnes conditions, quoi. Mais j'adorais la boîte. Mon stage n'était pas nécessairement hyper intéressant. Je faisais beaucoup de cartons, beaucoup d'assistanat, de choses... J'avais l'impression de régresser un peu. Donc, en fait, après 5 mois, je suis allée voir mon boss... et puis je lui ai dit voilà, c'est cool, mais moi je gagne pas assez d'argent et puis je fais pas assez de trucs intéressants, donc je pense que je vais partir. Je lui ai dit ça comme ça, il m'a regardé en mode t'es à New York, normalement tu vois
ça fait un peu le diable s'habille en Prada. Ouais. Quoi. Non mais tu connais le nombre de nanas qui donneraient tout pour avoir ton job.
Exactement ça. C'était vraiment exactement ça. Mais je pense que j'avais atteint un moment où vraiment ça me rendait triste, en fait, de pas pouvoir vivre une belle expérience, parce que il faut savoir que déjà j'avais pas assez d'argent pour vivre, et puis en plus de ça j'avais quand même une relation longue distance toujours à gérer avec mon copain qui était étudiant. Donc ni l'un ni l'autre on gagnait assez d'argent pour se voir, en fait, donc ça servait à rien.
Vous êtes pas vu du coup pendant les 5 mois?
On s'est vu une fois, je crois. Donc hyper dur.
Et tu t'es jamais posé la question de est-ce que tu t'es beaucoup posé la question à l'inverse, est-ce que ça va durer, quoi, la relation à distance dans ces conditions?
Forcément, c'est très difficile. Hein. En 4 ans, tu te poses beaucoup de questions. Après, je pense qu'on est très forts psychologiquement tous les deux, et puis je pense qu'on était très amoureux. Et du coup, voilà la preuve en même temps, mais ça s'est quand même bien passé, mais je pense que la première année c'était la plus difficile, justement à cause de ça aussi, du fait que j'étais pas hyper heureuse à New York. Et puis soudainement la situation a changé. Quand j'en ai parlé à mon boss, il m'a promu, il m'a augmenté et j'ai eu un job de fou. Ça s'est combiné avec une personne qui a quitté son poste, qui fait que j'ai pris vachement de responsabilités sur mes épaules. Et je suis une junkie de responsabilité, donc moi, dès que tu me donnes énormément de taf à faire, je le fais, j'adore, et du coup ça s'est hyper bien passé. Donc ça, j'ai passé 1 an de plus à New York en étant payée correctement, j'ai pu déménager, j'avais un appart dans l'Upper West Side.
Sympa.
Voilà, hyper canon, tu vois, voilà, je vivais mon expérience new-yorkaise, quoi. Et puis avec Bobby, on se voyait tous les mois,
donc, ah ouais, donc là, ça change tout, quoi.
Exactement. J'avais vraiment, j'adorais. Puis, je sais pas, il y a un truc hyper satisfaisant de te dire, ouais, je l'ai fait, quoi. Au début, ça a pas fonctionné, mais j'ai poussé et
j'ai voilà. Juste que je voulais.
Ouais. Donc génial. Vraiment, la deuxième partie de New York, enfin, en tout cas, les 2/3 de New York, vraiment fantastique. C'est une ville de malade. Je me m'étais fait des copains copines, autant français qu'américains, donc. Ouais, au top, vraiment, j'ai adoré. Après, ça reste une ville qui est quand même très métro boulot dodo, donc ça épuise. Hein. Je vais pas dire que tout était rose, mais c'était en tout cas 1000 fois mieux que le début, ça c'est sûr.
Excellent. Et alors, Il y a un chiffre, moi, quand on me préparait cet épisode, qui m'a fait beaucoup rire. Mmh. Est-ce que tu pourrais me dire combien de fois tu es allé voir Le Roi Lion à Broadway? Combien de fois est-ce que tu es allé voir une comédie musicale à Broadway?
Alors, moi, je t'ai dit que j'étais fan de chant depuis que j'étais toute petite. Donc, bon, j'espère que ça va aider à ce que les gens me prennent pas pour une folle. Et je suis allée voir sur un an et demi, je crois, 18. Enfin, c'était presque une par mois, peut-être 17. Et du coup, j'ai vu Le Roi Lion deux fois ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais c'est, ouais, j'étais, mais tu sais, il y a un truc à New York, ça, pour les gens qui y sont ou qui vont y aller, ou il y a une application qui s'appelle TodayTix. Et sur place, en fait, tu peux acheter des tickets à la dernière minute. Ils sont vachement pas chers. Donc, si tu t'en fiches un peu de où tu t'assois, t'as vraiment des super deals et moi c'est vraiment un truc, les comédies musicales à New York, je trouve que vraiment déjà Broadway c'est une qualité incroyable et puis c'est des spectacles de fou quoi, donc c'était vraiment mon petit treat du mois, tu vois.
Today Tix, comme les tickets du jour quoi.
Ouais, Today Tix, sauf que Tix ça s'écrit T-I-X. Ouais, exactement, c'est une application et vraiment tu peux payer 40-50 dollars ton billet. Enfin, c'est vraiment excellent.
Excellent. Écoute, je note le bon plan, je te remercie. Ouais, alors donc du coup, tout va bien, tu t'éclates, tu progresses professionnellement, socialement, tu vois ton chéri au moins une fois par mois. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après?
Eh bah, écoute, je rentre pour Noël en étant en plein process en fait pour changer mon visa parce que du coup mon G1.
Parce que là, t'étais toujours en G1.
Ouais. Et mon G1 venait à sa fin. Et parce que ça faisait 18 mois et du coup ma boîte était vraiment cool et vraiment prête à payer l'avocat, tout, enfin voilà, tout était en train de se dérouler vraiment bien.
Il n'y a pas une période de carence après le G1?
Un mois.
Ah OK. Donc, moi je crois c'est okay. De mon temps c'était de 18 mois aussi. De
ah
mon
ouais.
Temps.
Mais non.
Je suis trop bien.
Ah ouais,
non, une fois que tu finissais, tu pouvais pas revenir. Ouais.
Ah oui. Non, mais oui, t'as une période de carence dans ce sens-là. Oui, tout à fait. T'as complètement raison. En effet, sauf que si tu fais une demande de changement de visa quand t'es sur place aux États-Unis, il y a pas de problème. Ah, oui. Donc en fait, on a fait une demande de changement de visa. J'étais sur un B2, qui est un visa touriste où tu peux rester 6 mois, mais où tu peux pas travailler. Sauf que du coup, je suis rentrée en France parce que c'était Noël. Et donc en fait, bon, la vérité de ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas encore mon master. Et tu sais, quand t'es en école de commerce, t'as pas l'équivalent bachelor. Enfin, c'est ton école peut t'envoyer un email qui dit oui, techniquement, elle a fait assez de cours pour avoir un bachelor. T'as pas ton diplôme. Donc en fait, ils pouvaient pas demander pour un H1B pour moi. Et donc il a fallu chercher un nouveau type de visa. Ouais. Qui était un H3, et le H3, c'est un visa hyper compliqué où tu dois faire des cours en même temps, mais c'est des cours que ton entreprise te donne. Enfin, en fait, on est allé vers le mauvais visa avec l'avocat. Et je pense que d'une manière générale, l'avocat, c'était un vieux crouton qui s'utilisait dans cette entreprise depuis hyper longtemps, mais qui n'était pas un bon avocat d'immigration, tu vois. Donc en fait, on a été, sur le visa. Ce qui a été hyper triste, j'étais à Reims en train de terminer ma dernière classe et mon boss m'a appelé pour me dire que c'était mort. Et bon après ça
il m'a... Ah c'était mort, genre vous pouvez pas considérer une autre option quoi, c'était vu qu'on s'est planté là-dessus, on a dû passer à autre chose quoi.
C'était impossible parce que ça a été denied. En fait, j'ai été denied deux fois sur ce visa et puis ils ont senti l'entourloupe parce que mon entreprise allait pas me donner de classe. Donc en fait, je pense qu'ils ont senti que c'était un peu une fake demande de visa, quoi, que c'était pas correct. Donc voilà. Donc, ouais, il m'a dit c'est mort. Enfin, c'était la deuxième fois, du coup, que ça échouait. Donc, voilà. Il m'a dit c'est mort. Il m'a dit, par contre, je peux peut-être te proposer un poste à Montréal et tout. Donc, on est parti sur ça pendant 3-4 mois. Ça, c'était mars 2017, du coup. Février 2017, ouais. Qui m'a appelé pour me dire que c'était mort. Donc, j'ai continué à travailler de loin jusqu'à mars. Ensuite, il m'a proposé le poste à Montréal. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre entre temps. Enfin, c'était un truc, je pense, un peu bidon. Parce qu'ils avaient envie de me garder, mais c'était un poste de store manager en plus, tu vois, d'un directeur de boutique. C'était pas vraiment ce que je faisais. Moi, j'étais quand même manager marketing. Ça m'aurait pas déplu hein, d'ajouter une corde à mon arc, mais c'était pas non plus idéal. Donc ça m'a bien bloqué parce que pendant 3 mois j'ai fait des démarches de visa pour le Canada et puis tout ça a échoué, donc je suis arrivée vers le mois de juin juillet en me rendant compte qu'en fait c'était mort quoi et ça allait pas se faire. Donc à partir de ça c'est là que je suis partie au Costa Rica justement parce que du coup j'ai eu un petit moment de dépression, tu vois, de me dire mince, je commençais si bien, je voyais vraiment ma carrière décoller, je faisais exactement ce que j'avais envie de faire professionnellement, j'étais très très satisfaite professionnellement, j'étais très fière de moi, puis je voyais vraiment l'évolution vite arriver parce que c'était une petite structure aux États-Unis, même si c'est quand même une plus grosse entreprise en France. Donc, je voyais vraiment mon avenir là-bas, quoi. Je me serais bien vue 5-6 ans encore à évoluer dans des postes. Et puis, j'aimais beaucoup mon équipe, voilà, tout ça, quoi. Donc, ça a été vraiment un retour à la réalité qui a été dur. Ouais. Et puis, en plus, toujours avec cette relation longue distance, quoi. J'étais rentrée en France. Je me rendais compte que moi, rester aux États-Unis, c'était plus possible, que mon copain était toujours aux États-Unis, donc il fallait qu'on remette.
Et lui, il n'a jamais considéré l'option de venir te rejoindre en France ?
Si, mais il parle pas français, on n'était pas mariés. C'est quand même un peu compliqué. Hein. S'il trouve pas du boulot, alors il a cherché un petit peu. Hein. C'est vrai que par période, d'une manière générale, on a quand même cherché beaucoup tous les deux dans 3 pays. Ça a été même 4, je dirais, au final. Parce qu'en fait, il n'est pas que mexicain, il est aussi canadien. Il a les deux nationalités.
Ah ouais.
Okay. Non, il n'a pas la résidence au Canada, donc il ne peut pas faire de visa ou quoi que ce soit via le Canada pour le moment. Donc, il fait tout via le Mexique. Mais bon, du coup, on a souvent cherché du boulot France, Mexique, Canada, États-Unis. Ça a été vraiment les endroits où ça s'est joué. Mais bon, il n'avait pas encore tout à fait fini son MBA à l'époque. Donc, on s'est dit, écoute, on va voir ce qui se passe. Moi, je vais rechercher du travail aux États-Unis, puis on verra, quoi. Donc, j'ai commencé à chercher, ça venait pas trop, et puis j'étais pas trop patiente. Donc, je suis partie au Costa Rica apprendre l'espagnol pendant un mois et demi. Parce que voilà, j'ai pris allemand première langue.
Ah oui, moi aussi.
Ah oui, voilà, la grave erreur. Bon, ça, c'est le problème des bons élèves quand t'es au collège, c'est que tout le monde te dit, oui, prends allemand, ça va te servir. Ouais,
allemand, latin, grec. Merci, les gars.
C'est l'enfer. Donc voilà, aujourd'hui je ne peux pas parler allemand, c'est quand même terrible. Mais donc voilà, donc je suis partie apprendre l'espagnol au Costa Rica, expérience génialissime qui m'a bien ressourcée, qui m'a permis de me remettre un peu dans le bain de voilà, il faut que je cherche du boulot et que j'avance. Donc voilà, je suis rentrée et j'ai cherché du boulot.
Et alors ?
J'ai mis vachement de temps quoi. Ouais. J'ai mis vachement de temps et puis quand j'ai trouvé, mon entreprise n'avait pas encore la place pour moi parce qu'ils engageaient quelqu'un déjà en novembre de la même année. Donc en fait, moi j'ai pu commencer qu'en janvier de l'année suivante. Donc par contre, c'était cool parce que j'ai trouvé un VIE à Barcelone. Rien à voir avec les États-Unis, du coup ça a pas du tout fonctionné, mais c'était quand même une belle expérience qui permettait d'apaiser un peu mes peurs d'avoir un trop gros écart dans mon CV.
Donc, t'es partie à Barcelone?
Ouais, je suis partie à Barcelone.
Ah, tu m'avais pas dit, c'est génial, t'es restée combien de temps là-bas?
Je suis restée un an, j'ai fait mon VIE d'un an. Je vais te raconter en détail Barcelone, mais juste avant ça, je suis partie passer 2 mois avec mon chéri aux États-Unis. Donc, lui, il venait juste de déménager à Louisville.
D'accord.
Et de commencer son boulot là-bas. Et donc du coup on a profité, on est allé faire le Grand Canyon, tout ça, on s'est fait un super voyage et puis après je suis rentrée et on s'est dit bon bah écoute, on voit un peu comment ça fonctionne à Barcelone et si jamais ça fonctionne bien pour moi, à ce moment-là toi tu commences à chercher du boulot à Barcelone et tu me rejoins. Donc ça c'était le nouveau plan.
Ok.
Donc voilà, je suis partie en janvier 2018 du coup à Barcelone, j'ai fait mon VIE dans une petite boîte franco-suisse qui fait de l'événementiel, donc de l'événementiel corporate. Donc c'était assez intéressant, pas exactement ce que je faisais avant, mais c'était une bonne petite expérience. J'ai vraiment bien aimé, j'ai surtout adoré mon équipe et puis le Barcelone en tant qu'expat, c'est génialissime. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis dans le sens où t'es juste à côté de la maison, donc je rentrais très souvent voir ma famille, ce que j'ai apprécié beaucoup quand même.
Mais tu m'étonnes.
Et puis j'avais une de mes meilleures amies aussi à Barcelone, donc canon. Et puis le temps incroyable toute l'année, Voilà, c'était vraiment une super expérience, mais insatisfaction au milieu parce qu'on en avait marre. Là, ça faisait 4 ans qu'on était en longue distance avec mon copain.
Wow.
Et on s'est dit, bon, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Lui, il trouvait pas de boulot à Barcelone, ça fonctionnait pas. Et puis, moi, je gagnais pas bien ma vie en tant que VIE à Barcelone aussi. Donc, s'il avait voulu me rejoindre et rester sur mon salaire au début, c'était quand même très compliqué aussi, parce qu'en VIE à Barcelone, comme t'es pas loin de chez toi, et puis c'est pas une ville très très chère, t'es pas hyper bien payé, quoi. Enfin,
d'accord.
Toi, toute seule, tu peux te faire vivre très bien, mais c'est vrai qu'en couple, c'est quand même compliqué. Donc, on s'est appelé bon, faut savoir que pendant 4 ans, on s'est quand même appelé tous les jours sur FaceTime.
Waouh.
On n'a pas manqué un seul jour, sauf si on voyageait.
Waouh.
Et un soir, on s'est appelé, on s'est dit, bon, je crois qu'il faut qu'on se marie.
Ouais.
C'était hyper fort.
Avant ces 4 ans, au mariage? Ou c'était la première fois, du coup, que vous lanciez
un peu la première fois, tu sais, t'en parles vite fait, mais tu réalises pas vraiment que ça va peut-être se faire. Enfin, c'était vraiment pas... Enfin, on savait qu'on voulait passer notre vie ensemble. Je pense que c'était très clair de toute façon parce qu'il y avait tellement de... On était tellement à fond dans la relation et on avait fait tellement de sacrifices pour que ça fonctionne que de toute façon, on savait qu'on allait passer notre vie ensemble. On pensait juste pas se marier aussitôt. Je pense que si on avait pu, on aurait attendu. Mais aucun regret. Vraiment aucun regret. Donc, ouais.
Comment vous avez fait ça?
Alors, hyper pas romantique, du coup, au début de cette demande FaceTime, quoi, voilà.
C'est qui l'a lancé en premier?
Bah, écoute, je sais même pas. Je m'en souviens pas tellement c'était nul. On en a pas trop reparlé. En fait, on a booké un vol à New York, justement, pour le mois de juillet de 2018. Et on s'est dit, bon, on se fiance là-bas officiellement. Il y avait pas trop de surprises, mais au moins, on faisait quelque chose de correct parce que ça nous faisait un peu mal au cœur de décider de se marier sur FaceTime. On s'est fiancé officiellement à New York en juillet de cette année-là. J'étais quand même très surprise parce qu'il avait trouvé une bague très jolie. Donc, c'était quand même très romantique. On était sur le Bow Bridge à Central Park. Le truc est très cliché. Oui. Donc voilà, ça c'était hyper cool. Et puis après, on a commencé à organiser un petit mariage très intime. Et on s'est mariés au Mexique en octobre 2018. Donc de là, dans la ville dans laquelle ses parents vivent en ce moment et d'où il est originaire, qui s'appelle Mazatlán, qui est sur la côte pacifique, qui est une ville très très jolie avec la plage, l'océan. Enfin, c'est très très beau. Donc moi j'étais pas déçue de marier.
La première fois,
là-bas ? Non, alors je crois que ma première fois c'était en 2016. Puis j'étais allée 4 ou 5 fois en fait. J'ai rencontré sa famille très tôt et puis lui la mienne aussi très tôt parce qu'au final pendant notre échange universitaire, dans les 4 premiers mois de notre relation, ses parents sont venus pour sa remise des diplômes de bachelor et moi mes parents sont venus me rendre visite parce qu'ils avaient envie de visiter la Louisiane. Donc en fait, on a fait les rencontres parents hyper tôt. Donc voilà, le Mexique j'ai pu y aller plusieurs fois ou au moins une fois par an pendant toute notre relation.
D'accord.
Donc et puis c'était l'endroit où on s'est marié, c'était sur un camp de golf où Bobby m'avait emmené une des premières fois. On était à Mazatlán, qui est très très beau. Donc c'était vraiment cool.
Mignon.
ouais non, c'était un beau petit mariage. Au final, il y avait mes parents, ses parents, son frère et ma sœur et son copain. Mmh. Donc voilà, on était 9, mais c'était magnifique. On pense refaire quand même une cérémonie, en tout cas un gros dîner avec nos amis, peut-être en Europe, dès que le temps nous le permettra, et puis dès qu'on sera sur place assez longtemps pour organiser tout ça.
Écoute, félicitations. Donc du coup là, ça fait 1 an que vous êtes mariés. Alors une fois que vous êtes mariés, donc vous êtes mariés au Mexique. C'est quoi l'étape suivante? Puisque donc toi, t'avais démissionné, enfin c'était fini ton VIE à Barcelone. T'étais rentrée en France.
Non, mon VIE à Barcelone s'est terminé en décembre. D'accord. Et mon boss souhaitait renouveler.
D'accord.
Et puis moi un peu aussi en soi. Et en fait, c'est vraiment la semaine du mariage où en fait, quand on s'est dit au revoir juste après s'être marié, Mes parents et ses parents m'ont pris entre quatre yeux en mode « c'est plus possible, tu peux pas renouveler ton VIE à Barcelone, vous fassiez quelque chose quoi ». Et du coup, je suis rentrée, j'ai appelé mon boss et je lui ai dit « bon, bah, en fait, je démissionne, enfin, du coup, je vais finir mon VIE fin décembre et puis après, je vais bouger quoi ». Ouais. Donc, il a quand même essayé de me garder. Je lui ai dit, si tu me trouves un truc à New York, je suis OK. Je peux faire fonctionner le truc, tout ça. Et puis finalement, il m'a dit, bon, New York, c'est trop cher en VIE. Je peux pas me permettre parce que c'était une petite structure. Mm-hmm. Et donc, il m'a dit, peut-être Montréal. Montréal revient sur la table.
Décidément.
Je pense que il va falloir que j'y vive à un moment donné parce que c'est juste pas possible. Et puis finalement, je me suis dit, bon, on va être encore dans un pays différent. Ça le fait pas quoi, donc je me suis dit bon allez, tu sais quoi, je prends une décision parce qu'il est temps de le faire, et puis si on se foire, et ben on se foire et on repartira de zéro, mais à un moment donné on n'a pas arrêté pendant 4 ans de faire des décisions qui étaient les bonnes décisions pour nos carrières, et puis au final ça fonctionnait pas avec notre relation, donc je me suis dit écoute, il faut que je fasse un choix à un moment donné et on verra bien. Donc le choix ça a été que je vienne à Louisville parce que Bobby avait un meilleur salaire que moi et puis sa situation est plus stable ici, donc ça faisait sens. Donc pour faire le visa H4 c'était assez simple parce que du coup comme on est mariés, on avait les papiers au Mexique et puis on a fait reconnaître notre mariage en France immédiatement aussi.
Donc c'est parce que Bobby avait un visa H1B.
Ouais,
c'était la seule option qui t'était disponible à ce moment-là, enfin qui t'était offerte.
Moi mais j'en ai pas trouvé. J'ai quand même cherché me faire sponsoriser moi toute seule quoi, mon autre option. Mais après je cherchais à le rejoindre dans le Kentucky, donc autant te dire que quand tu as du boulot à San Francisco, à Boston, à New York, ouais clairement tu peux trouver je pense. Même si c'est encore pas évident, hein. Je veux dire tout le monde trouve pas, mais moi dans le Kentucky, je veux dire il y a pas une seule entreprise française, il y a même pas de communauté française en soi à Louisville.
Ouais.
Donc je pouvais pas chercher sur ça et puis donc c'était un peu compliqué. Donc et puis à l'époque quand on a pris cette décision, le H4 pouvait te permettre d'avoir une autorisation d'emploi dans la logique de tu as ton H4, tu entres aux États-Unis, tu fais une demande d'autorisation d'emploi et puis tu l'obtiens, je sais pas, 4 5 6 mois suite à ton arrivée. Et puis Trump travaillait depuis quand même assez longtemps pour supprimer ça. Et je pense vraiment au mois de novembre, ça a dû passer. Juste après qu'on s'est marié.
Juste après le mariage, quoi.
Ouais, juste après qu'on ait pris toute une décision, qu'on soit à fond, à 100% dedans, quoi. Donc en fait, l'autorisation de travail a été supprimée pendant les 3 premières années. Donc là, aujourd'hui, je me retrouve à pas pouvoir travailler. On s'est dit quand même, oui, peut-être qu'on essaiera de changer d'endroit parce que Bobby, il est dans une entreprise qui est quand même... c'est une grosse entreprise américaine de télécommunications et ils ont quand même des bureaux partout. Donc, il a eu quatre propositions pour bouger à Stamford dans le Connecticut, à New York du côté de Brooklyn et même à Denver dans le Colorado. À chaque fois, les RH disent qu'ils veulent pas repayer son visa. Donc, le truc avec le H1B, donc comme tu as pu le comprendre, c'est le visa qui est quand même bien ciblé par Trump et son administration en ce moment parce que c'est un visa qui favorise quand même pas mal les gens d'Inde et les gens du Mexique. Et je pense qu'il a envie de calmer un peu ses immigrations dans le pays. Et du coup, malheureusement, les choses se sont un peu compliquées, ce qui fait que normalement, le H1B, c'est un visa que tu peux avoir sur 3 ans, que tu renouvelles tous les 3 ans. Sauf que pour les Mexicains, ce n'est plus le cas. Donc, sur ta pétition de visa, tu dois marquer 3 ans, mais en fait, tu dois renouveler tous les ans. Et quand tu renouvelles, ça se fait sans payer pour le moment. Mais si jamais tu décides de changer de localisation de travail, ou de poste, il faut que tu repayes pour un visa complet. Et le H1B, c'est $8,000.
Un visa complet?
Ouais. Donc voilà, c'est hyper compliqué. Et puis plus on regarde, plus c'est dur en fait. Donc.
Et Bobby étant également canadien, il peut pas. Il y a pas des accords entre les États-Unis et le Canada sur l'immigration justement qui rendent les choses un petit peu plus faciles.
Si, carrément. Mais en fait, tu dois avoir la résidence au Canada, donc tu dois vivre au Canada. Et le problème, c'est que c'est
à lorsque tu fais ta demande.
Exactement. Donc en fait, ça fait partie des steps qu'on se dit, ouais, peut-être que ce sera une étape qu'on prendra d'aller vivre au Canada, d'avoir une adresse là-bas et du coup de repasser par là. Mais tu vois, on a atteint un niveau où lui, ça fait 10 ans qu'il est aux États-Unis. Moi, je suis quand même, j'ai passé du temps aussi aux États-Unis. C'est un pays que j'aime beaucoup. Mais il y a plein de choses, voilà, qui finissent par me fatiguer. Et quand tu te sens pas bienvenue dans un pays, et c'est pas le cas des Français, je trouve, mais pour lui en tant que Mexicain, c'est quand même vraiment pas évident. C'est une immigration qui est hyper compliquée, je pense. Donc sans entrer dans les détails, voilà, c'est un sentiment aussi. Il en a peut-être un peu marre d'être là. Et voilà, et Louisville, ça nous fait pas rêver non plus. Le temps est vraiment pas ouf. Il fait très très chaud l'été, très humide. Il fait très très froid l'hiver. Et puis entre deux, t'as une espèce de saison que tu peux pas tu peux pas trop définir, où tu passes de moins 5 à 18 degrés dans la même journée, quoi. Ceci n'est pas un mythe, c'est une vérité. C'est terrible. Ouais. Donc je crois que c'est Louisville, sur toutes les villes américaines, c'est la troisième ville en venant du bas. Une des villes qui a le pire temps aux États-Unis. Donc c'est bête, mais tu vois, c'est des petites choses. Évidemment, moi, je peux pas travailler en ce moment. Lui, il sent qu'il est un peu bloqué dans son poste. Donc voilà, c'est un peu difficile. Après, on n'abandonne pas. Là, tu vois, je te parle. Aujourd'hui, j'ai envoyé un email à un contact à New York pour voir si je pouvais trouver un poste là-bas. Mon chéri, il fait pareil. Il continue à postuler en interne dans sa boîte pour essayer de passer par eux, parce que c'est quand même notre meilleure chance au final. Donc voilà, on continue. On sait jamais où ça nous emmènera. Tu sais, quand tu fails 10 fois, la 11e, ça peut totalement être la bonne. Donc
c'est clair. Mais non, moi je suis impressionnée par ta résilience, parce que vous avez quand même eu énormément de bâtons dans les roues depuis votre fameuse rencontre à la piscine. Savoir si tu t'es lavé les dents de temps en temps.
C'est bon,
et oui, visiblement. Et finalement, je veux dire, vous avez l'air d'avoir jamais baissé les bras, quoi. Enfin, c'est vraiment une belle leçon d'espoir, tout ça, je trouve. Et vraiment, j'espère que vous allez trouver le lieu et les entreprises qui vous méritent pour pouvoir être enfin.
C'est très très gentil. Écoute, je doute pas que ça va arriver un de ces quatre. Après, on a fait des choix, tu sais, c'est pas toujours les bons par moment, mais ce qu'on s'est dit, c'est que peu importe le choix qu'on fera, il faudra qu'on l'assume. Et il faudra qu'on vive avec. Et tu vois, Louisville, on s'était dit, moi, je suis arrivée à Louisville avec 4 valises, Anne-Fleur. Je suis arrivée avec toute ma life. On a adopté un chien cette année. Enfin, tu vois, on était là, on y croyait, quoi. On pensait vraiment que c'était la prochaine étape de 3 ans au moins, que peut-être on pourrait évoluer. Enfin, voilà, tout ça, on était à fond. Et puis après, au milieu, là, on s'est dit, bon, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, c'est plus possible. Et du coup, voilà, on ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas, ça va bouger, ça, c'est sûr.
Et alors, est-ce que c'est pour ça que vous êtes lancé dans l'aventure du van?
Ouais, exactement.
Tu peux nous raconter un petit peu? Moi, je crois que c'est comme ça que je t'ai découverte sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça... Enfin, c'est un des premiers trucs que j'ai vu, quoi, tu vois, sur ta présence en ligne. Tu peux nous raconter un peu le projet et ce que vous faites exactement?
Ouais, bien sûr, c'est un projet qui est vraiment vraiment chouette. Écoute, on cherchait en effet un projet dans lequel se mettre psychologiquement et physiquement, parce que du coup, c'est vrai qu'en plus, comme je te dis, il y a des expatriations où tu as de l'argent, t'as un statut expat et ça se passe très bien. Puis t'as des expatriations, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a été un peu ric-rac en termes de budget sur certains trucs. On a mis notre focus sur les voyages. On s'est dit, bon, on n'aura pas trop de vie sociale à Louisville. On n'ira pas trop au resto, ni faire de trucs comme ça. Mais par contre, dès qu'on peut mettre un peu d'argent de côté, on voyage. Donc c'est ce qu'on a fait un petit peu en début d'année. Et puis on s'est dit, mince, ça se trouve, on va quitter les États-Unis pour de bon. Et c'est possible qu'on revienne jamais. On sait pas du tout de quoi il fait demain. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Et c'est trop bête, quoi. Donc, on a commencé à rechercher un peu des manières de faire un gros road trip aux États-Unis. Et puis, le van est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. On a commencé à regarder des vidéos sur YouTube. On s'est vachement renseigné sur comment les gens construisaient le van, est-ce que c'était quelque chose qui était très cher ou pas, est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu... ce que c'était, quoi.
Et donc, tu dis, quand tu dis construire le van, vous n'êtes pas en train de construire une charrette, mais vous avez acheté donc un van que vous êtes en train de retaper complètement à l'intérieur pour pouvoir y vivre, pour faire justement ces road trips et cette découverte de l'intérieur des États-Unis, c'est ça?
C'est ça, exactement. En fait, on a acheté un utilitaire, donc c'est un ProMaster, c'est un van que les gens utilisent généralement pour leur business. Qui est quand même assez grand, donc on l'a acheté d'occasion ici dans la région, et de A à Z, on est en train de construire une petite maison à l'intérieur, donc là ça fait 3 mois à peu près, un petit peu moins, qu'on a commencé les travaux, donc c'est à base de tu mets ton isolation, tu mets ton bois, tout tes finitions, ton petit frigo, on a des panneaux solaires au-dessus du van pour avoir l'électricité à tout moment dès qu'il y a du soleil.
C'est génial.
Ouais, c'est excellent parce que écoute, déjà ça nous occupe énormément, donc on n'a pas le temps de se lamenter sur je travaille pas machin. et puis on apprend énormément de choses. C'est un projet qui est très difficile. On s'en rend compte tous les jours. Hein. C'est vraiment pas simple, mais c'est hyper satisfaisant. C'est très très chouette de terminer un week-end et de te dire ah ouais. Là récemment, on a fait le plafond et enfin voilà, tu le dis. Et puis nos lumières, elles fonctionnent. Enfin voilà, c'est des petites histoires comme ça tous les jours.
Tu vois des exemples concrets ce que tu as réussi à accomplir. Quoi.
Ouais, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui manquait beaucoup, qui nous manquait beaucoup à tous les deux. Tu vois, parce qu'on est quand même très intellectuel. Ça bouquine, ça travaille dur. Ça, on adore le cinéma. Enfin voilà, il y a plein de choses culturelles qu'on adore faire, mais de nos mains. Ça nous manquait vraiment de faire quelque chose physiquement. C'était vraiment très important. Donc on est hyper heureux. Je pense qu'on a encore 3 mois de travail quand même. Je pense qu'au total.
Mais quand même, il y a du taf.
Ouais, il y a du travail. Après, c'est parce qu'on veut aussi faire les choses bien parce qu'en fait, à terme, le plan vraiment avec le van, c'est de partir, de faire la côte ouest des États-Unis. Donc tout ce qu'on, moi,
de partir au Canada.
Ouais. Ensuite, on veut partir au Canada et surtout, on veut partir en Alaska.
Ah, oh, génial. Ah waouh.
Ouais, canon.
Ouais, donc t'as intérêt à pas déconner sur l'isolation.
Ouais, exactement. On fait quand même gaffe parce que c'est vrai que et puis en plus on aura notre chien avec nous, donc il faut quand même qu'on ait vraiment quelque chose de solide. Donc voilà, on fait vraiment les choses très très bien. On se renseigne énormément. Et donc voilà, une fois qu'on aura fait ça, on souhaite revendre le van idéalement aux États-Unis parce que c'est une voiture qu'on a achetée aux États-Unis, qui est immatriculée aux États-Unis. Donc c'est pas pour le garder à vie. Donc c'est pour ça que tu me demandais les fêtes de Noël si on allait passer dans le van l'année prochaine. Je sais pas.
Mais oui. Non, parce que je me dis bah si jamais vous atterrissiez au Canada, ça pourrait être,
ouais,
ça pourrait
être tout à fait,
votre roulotte de déménagement.
Non, tu vois, là avec tous les trucs de New York, par moment on se regarde, on se dit qu'est-ce qu'on fait si dans un mois et toi et moi on reçoit des jobs à New York.
Déjà,
ouais, quoi. Je veux dire. Mais bon, on se dit bah au moins on a de quoi déménager, quoi. On est tranquille.
Exactement. Donc, voilà. Tu peux te le faire, ton road trip du Kentucky à New York, ce sera quand même déjà une bonne balade.
Oui, c'est déjà une bonne balade. Non, mais tu vois, voilà, tu m'interviews dans un moment de notre vie où vraiment on a des projets, mais on sait même pas si on va les réaliser. Voilà, on sait pas du tout de quoi sera fait demain, mais en tout cas, on met tout en œuvre pour que les choses changent et qu'on trouve notre bonheur un peu ailleurs, quoi.
Écoute, c'est génial. Écoute, Fanny, alors, généralement, je demande à nos invités, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Mais là, j'ai envie de dire qu'on a quand même une bonne idée de ce qu'on peut te souhaiter. On vous souhaite de trouver en gros le coin qui vous accueillera, les entreprises qui vous accueilleront à bras grands ouverts et qui vous permettront de vous épanouir personnellement, professionnellement, individuellement et en couple. Et puis bah on vous souhaite de trouver cette prochaine étape rapidement, mais pas trop quand même, parce que moi j'aimerais bien suivre votre road trip aux États-Unis jusqu'à l'Alaska et découvrir un peu l'Alaska sur ton blog et sur tes réseaux sociaux pendant ton voyage en van avec Bobby et ton chien.
Bon. Merci beaucoup, c'est très très gentil de nous souhaiter tout ça. Le plus important c'est qu'on est ensemble. C'était pas gagné de prendre nos décisions ensemble et ça c'est quand même notre grosse victoire de 2019. C'est que, voilà. Peu importe ce qu'on fait, on le fera ensemble. Donc, on a des familles qui nous soutiennent. Ça, c'est quand même génial aussi.
C'est précieux, ouais. C'est précieux. Écoute, c'est génial. Bon, j'ai hâte de suivre la suite de vos aventures. On vous souhaite le meilleur. Alors, j'ai bien compris que tu n'étais pas tombée complètement amoureuse du Kentucky ni de Louisville, mais est-ce que tu pourrais te prêter à notre petite tradition de fin d'épisode, c'est-à-dire que tu nous partages trois ou plus, si tu en as envie, lieux ou expériences à vivre si on se retrouve dans ton coin du monde pour vivre un peu comme un local et découvrir le coin.
C'est clair. Non, écoute, je suis pas tombée amoureuse, mais ça reste un état qui est très très joli et c'est un état qui est très différent des autres. Donc sur ça, il y a vraiment rien à dire. Comme on disait en début d'épisode, il y a quand même quelque chose à faire absolument quand on est dans le Kentucky, c'est le Derby, qui est donc la grande grande course hippique, c'est une des courses les plus prestigieuses du monde.
Avec les grands chapeaux.
Ouais, voilà, c'est assez excellent. On y a emmené mes parents cette année, donc c'est au mois de mai tous les ans. C'est toute une semaine et puis toute la semaine avant, il y a plein d'événements dans Louisville. C'est là où la ville est vraiment la plus vivante, quoi. Donc c'est absolument à faire. Si jamais vous êtes pas au mois de mai à Louisville, il y a quand même un musée aussi sur l'endroit où il y a les courses hippiques qui est très très intéressant. Donc ça c'est quelque chose que je conseille. Et puis évidemment dans le coin, il y a Lexington et Versailles qui sont deux villes Versailles comme ils disent ici, mais bon, c'est Versailles. C'est deux villes qui sont très imprégnées dans la culture hippique et donc il y a toutes les grandes fermes d'élevage de chevaux qui sont sublimissimes parce que c'est des grands grands espaces verts. C'est vraiment très très beau à voir, donc au moins prendre la route et aller checker ça quand même. La deuxième chose, ce serait le Bourbon, évidemment. Moi, j'aime vraiment pas ça, mais j'ai fait une dégustation. On a fait plusieurs ici des distilleries, puis c'est un peu notre truc. J'ai fait mes études en Champagne, tout ça. Donc, moi, quand je suis dans une région où on fait de l'alcool, je me dis, bon, faut quand même que je teste. Et du coup, on a fait un testing à Woodford Reserve, qui est une des... une des distilleries qui est super connue. La distillerie en elle-même est très belle. Le lieu est super joli. Et puis, le testing, c'est un testing chocolat bourbon. Donc, c'est encore plus intéressant, je trouve.
Ouais,
hyper hyper cool. Après, dans la ville de Louisville, je peux pas te dire il y a des restos hyper sympas parce que figure-toi que c'est un hub démographique qui est tellement varié que en fait c'est là où les chefs viennent tester un peu leurs restaurants avant de les lancer ailleurs aux États-Unis. Donc en fait c'est génial, mais du coup t'as un turnover très très fort de restauration. Ce qui fait que si t'as un endroit que t'adores, 6 mois plus tard t'es pratiquement sûr qu'il est plus là. Peu dommage. On avait un resto espagnol de tapas fantastique et on est allé une fois et on y est retourné et c'était un truc de bourbon et de steak, donc ça va très très vite. Donc, je peux pas te donner de resto, mais dans le Kentucky en général, par contre, pour les personnes qui adorent la randonnée, il y a vraiment des endroits très très sympas, dont le Natural Bridge State Park qui est le parc. Ça fait partie d'un grand complexe de forêts et de roches du Kentucky. Et en automne, tu as vraiment un foliage incroyable. Donc, toutes ces feuilles oranges, rouges, jaunes, c'est très, très beau. Donc, pour ceux qui aiment la randonnée, il y a quand même de quoi faire dans le coin. Nous, c'est vrai qu'on a passé l'été, tous nos week-ends à randonner, à aller checker un peu des chutes d'eau et tout ça. C'est quand même pas mal de choses dans le coin. Donc, Louisville en elle-même, la ville, c'est cute et tout. Tu y passes une journée, c'est sympa. Mais c'est vraiment les choses à faire autour qui valent plus le coup, finalement.
Écoute, c'est bien noté. Et donc, si nos auditeurs veulent retrouver toutes ces adresses qu'ils n'ont pas pu noter, parce que je sais pas, ils sont en train de conduire, de prendre leur douche ou de se brosser les dents, puisqu'ils sont français, on les invite en tout cas à aller faire un tour sur notre compte Mapster, sur lequel Manon récupère toutes les bonnes adresses de nos invités et sur lequel on peut retrouver plein de super conseils un peu partout dans le monde. Écoute, merci beaucoup, Fanny. Dernière question, si nos invités veulent te retrouver pour continuer la conversation ou pour suivre la suite de tes aventures, où est-ce que ils peuvent te retrouver en ligne?
Bah écoute, principalement, venez me voir sur Instagram. J'ai beaucoup de temps entre mes mains, donc avec grand plaisir, je papote. C'est vraiment sans problème. Donc, mon compte Instagram, c'est Fanny CHN, comme Fanny Cohen sans les voyelles. Et puis sinon j'ai un blog aussi sur lequel je fais pas mal de photos, des recettes un peu healthy, des conseils voyage et puis toute l'évolution du van aussi pour ceux que ça intéresse. On met des articles à peu près toutes les semaines, sinon toutes les deux semaines, sur l'évolution de la construction. Et puis bien sûr, si jamais tout fonctionne comme on veut et qu'on part faire notre gros road trip, on partagera ça aussi sur le blog. Donc le blog, c'est 3x9.com.
Et alors justement, c'est une question, pourquoi 3x9?
Parce que j'ai 27 ans et du coup c'est ce qui m'est venu en tête ce moment. 3x9, ça va être un peu obsolète l'année prochaine, mais... Ouais, voilà, exactement, j'avais besoin d'un truc rapide, un truc en anglais qui fonctionne bien, voilà.
Ça fonctionne très très bien. Bon, eh ben écoute, un grand 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 merci Fanny, c'était vraiment hyper intéressant de découvrir ton parcours ainsi que celui de Bobby. Ça me fait rire qu'on appelle Bobby. Et on vous souhaite donc d'excellents voyages et puis de trouver votre futur chez vous bientôt. Voilà, écoute, à très bientôt et puis je souhaite une excellente continuation.
Merci beaucoup. Merci à vous les filles de faire un podcast aussi intéressant. On est vraiment ravis de pouvoir écouter toutes ces histoires toutes les semaines. Là, c'est vraiment une très belle idée. Et puis toutes les deux, vous avez une pêche monumentale et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à toi de m'avoir invitée. C'était un très beau moment.
Moi, c'est trop sympa. Merci Fanny. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une review, donc un avis, qui nous a été déposé par Souze29, qui nous a donné 5 étoiles et qui dit « à vite écouter ». Très enrichissant de vous écouter chaque semaine, à la fois on découvre des personnes que l'on ne connaît pas, mais aussi on en apprend sur celles que l'on suit et qui nous suivent. Des récits qui, parfois, ont des ressemblances avec notre parcours. Bref, je vous recommande ce podcast, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les écouter, foncez. Merci beaucoup, c'est super sympa d'être fidèle au podcast. Merci beaucoup pour ces encouragements et puis vraiment merci immensément pour ta fidélité au podcast. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!